Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les Légionnaires du Christ ont un nouveau directeur général, le père Eduardo Robles Gil. Il a été accepté par le pape après son élection par le chapitre général. Chapitre qui a publié en même temps un communiqué dans lequel il exprime son mea culpa pour les fautes commises par le fondateur de la congrégation, le père Maciel, et pour ses propres fautes. Le rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies fait réagir au sein de l'Église. Nous entendrons les réactions de deux connaisseurs de ce sujet délicat. Le père Zollner, responsable du Centre pour la protection de l'enfance de l'Université grégorienne, et Mgr Guy Arpini, l'évêque de Tournai. Publication du thème des prochaines journées mondiales de la jeunesse qui mèneront au grand rendez-vous de Cracovie en 2016. Thème tiré des béatitudes et choisi par le pape François. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Les Légionnaires du Christ ont un nouveau directeur général, le père Eduardo Robles Gil, un Mexicain de 62 ans. Il a été élu par le chapitre général. Son élection, transmise au pape François, a été confirmée par le Saint-Siège. Le nouveau directeur général de la Légion souligne que ce chapitre général marque la fin d'une époque et un nouveau commencement. « Nous ne pouvons effacer le passé », a-t-il déclaré, « mais nous devons apprendre la leçon ». Condamner les faits déplorables qui sont survenus et se confier à la miséricorde de Dieu. Dans un communiqué publié ce jeudi, mais dont la teneur remonte au 20 janvier, les légionnaires présentent un grand mea culpa. Bernard de Cotigny.
Le chemin de renouveau passe par la reconnaissance pleine et entière du mal causé par le fondateur des Légionnaires du Christ, le père Martial Maciel. Ils en disent ainsi plus long sur ses agissements qu'ils condamnent avec fermeté. Abus de mineurs séminaristes, actes immoraux commis avec des hommes et des femmes adultes, usage arbitraire de son autorité et des biens, consommation exagérée de médicaments addictifs et appropriation aux décrits publiés par des tiers. Après un mea culpa pour les fautes du père Maciel, mais aussi pour leur aveuglement, les pères du chapitre reviennent sur les travaux en cours dans trois champs précis. La redéfinition du charisme, l'exercice de l'autorité et la formation adéquate. Sur le charisme, ils reconnaissent plusieurs problèmes. Le manque d'insertion dans l'église locale, ainsi que l'insistance démesurée sur notre propre effort, écrivent-ils, l'efficacité humaine, le prestige extérieur, l'accomplissement de normes minutieuses. Concernant l'autorité, l'accent est mis sur la libération de la parole au sein de la congrégation, et un meilleur contrôle des dirigeants. Enfin, les légionnaires veulent repenser la formation pour mettre un terme à la vague de départ de prêtres et religieux qu'ils connaissent depuis 4 ans, mais comme ils le soulignent, ils ne sont qu'au milieu du gué.
Bernard de Cotigny. Et sur le plan économique, les pères du chapitre n'ont relevé aucune malversation, mais ils reconnaissent que l'urgence est de réduire la dette bancaire due à une expansion trop rapide des œuvres de la congrégation, la crise immobilière mondiale et la chute des dons. Pour plus de précisions sur ce communiqué des Légionnaires du Christ, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va. Nous revenons donc sur le rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies publié mercredi sur l'action du Saint-Siège concernant les abus sexuels sur mineurs commis par des membres du clergé. Un texte dur contre l'Église et dont les auteurs ne semblent pas avoir pris en considération les actions et les mesures prises par les autorités ecclésiales, aussi bien au niveau du Saint-Siège qu'au niveau des conférences épiscopales nationales. Le père Hans Zollner, responsable du Centre pour la protection de l'enfance de l'Université grégorienne, revient sur le rapport et sur les conséquences éventuelles qu'il peut avoir pour l'Église.
Il rapporto non è del tutto negativo nei confronti della Chiesa. Ci sono molti punti dove il rapporto alla Commissione delle Nazioni Unite riconosce che c'è movimento, c'è progresso da parte della Chiesa.
Le rapport n'est pas complètement négatif envers l'Église. Il y a de nombreux points où la Commission des Nations Unies reconnaît que les choses changent et progressent au sein de l'Église. Deuxièmement, ce qu'on remarque et que l'on ne prend pas en considération est la tentative et la volonté exprimée de la part de Benoît XVI et du pape François de faire de la lutte contre les abus une des missions principales de l'Église, comme ils l'ont d'ailleurs répété à plusieurs reprises. Après, on ne comprend pas bien comment des thématiques comme l'avortement, la contraception et l'homosexualité figurent dans ce rapport. Ces thèmes n'ont certainement pas de rapport, mais l'on voit que d'une certaine manière, ils devaient figurer dans les conclusions de la Commission, que quelqu'un les y a mis comme pour dire « l'Église doit évoluer sur la morale sexuelle ».
mettere comunque questi temi, come per dire, la Chiesa deve muoversi sulla morale sessuale e così abbiamo fatto il nostro punto.
Ecco, la Chiesa...
L'Église, comme vous l'avez souligné, est en train de combattre cette terrible plaie des abus. Selon vous, quel effet pourrait avoir le rapport sur cet engagement?
Difficile dire. Da un lato sarà certamente uno stimolo per andare avanti.
C'est difficile à dire. Cela représentera certainement un stimulus pour aller de l'avant et pour individualiser, d'une part, les domaines où nous devons dire ce que nous faisons déjà, et d'autre part, les domaines où nous devons vraiment travailler davantage et que nous devons concrétiser. C'est ce qu'a dit Mgr Scicluna, qui a été pendant 10 ans le promoteur de justice. Mais je dois dire également que cette accusation, comme celle de cette commission, au moins pour certaines parties du rapport, n'aide pas à motiver les gens dans l'Église à aller de l'avant, car peu importe ce que nous faisons, ça n'est pas reconnu. C'est donc aussi un peu décevant. Le travail accompli n'est pas pris en considération. Il est aussi sûrement injuste de pointer du doigt uniquement ces choses dont les papes parlent d'ailleurs depuis des années, comme la plaie ouverte au sein de l'Église.
Des propos recueillis par notre confrère italien Alessandro Gisotti. Autre réaction, celle de Mgr Guy Arpigny, évêque de Tournai en Belgique. Il s'est beaucoup impliqué dans le dossier des abus sexuels sur mineurs. Il était présent notamment à la grande conférence de janvier 2012 organisée par l'université grégorienne à Rome. Il suit le dossier pour l'Église belge. Lui aussi trouve le rapport de l'ONU comme injuste. Il préfère souligner les progrès qui ont été accomplis par l'Église ces dernières années.
C'est un texte qui est très général et qui attaque, si on peut dire, donc, le Saint-Siège, mais en raison de faits qui sont très anciens. On ne tient pas compte des décisions qui ont été prises par le Saint-Siège depuis au moins une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai compris la réaction de Mgr Tomasi, qui disait que ce texte était déjà dépassé. Donc la remarque qu'on fait à l'égard du Saint-Siège.
Pensez-vous que le Saint-Siège et l'Église dans tout son ensemble, puisqu'il s'agit aussi des églises locales, des églises nationales, pensez-vous que l'Église devrait mieux communiquer sur ce qu'elle a déjà entrepris justement par rapport à ce dossier?
Oh, il y a déjà eu beaucoup de communication de la part de Mgr Scicluna à l'époque, maintenant du nouveau responsable à la doctrine de la foi. Mais je pense que dans certains pays, certains États du monde, il y a encore du chemin à faire pour accepter que les abus sexuels sur mineurs de la part d'hommes d'église ou de femmes d'église, c'est une réalité dont on ne parle pas encore assez. Quand je suis allé au congrès sur la pédophilie, initié par la grégorienne en 2012, en février, bon, j'ai entendu des évêques qui disaient que chez eux, cela n'existait pas. Ou bien alors c'était de l'homosexualité, ou je ne sais pas. Donc je crois qu'il y a encore du chemin à faire dans certains États, oui.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour aller encore peut-être au-delà de ce qui a déjà été réalisé?
Mais vous l'avez dit, peut-être davantage communiquer quand on apprend un texte sur la prévention des délits sexuels sur mineurs, etc. Chaque fois que quelque chose est signé ou publié, qu'on le fasse connaître à l'ensemble.
Qu'attendez-vous de la commission qui a été instituée par le pape François concernant les affaires d'abus sexuels?
Je crois que c'est une excellente initiative et comme toujours, les personnes qui travaillent dans ce genre de commission sont certainement des personnes très à la hauteur qui, suivant les églises particulières ou les conférences épiscopales, vont faire leur chemin, donc vont faire en sorte que ça avance. Ce que l'on reproche parfois, c'est que on ne dise pas suffisamment ce que l'on donne comme procédure à suivre pour les prêtres et religieux qui sont reconnus coupables. On ne dit pas toujours ce qui est prévu pour eux, et du coup, on pense qu'on les cache. Mais là, je crois que avec la commission mise sur pied par le pape François, tout ça va avancer.
Mgr Guy Arpigny, l'évêque de Tournai en Belgique. Le rapport n'a pas fait réagir uniquement au Saint-Siège et en Europe, il a aussi fait réagir dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où sœur Marianne Walsh, la porte-parole des évêques américains, a déclaré que l'Église catholique, ces dernières années, a fait plus que toute autre organisation internationale pour affronter le fléau des abus sexuels sur mineurs et continuera à le faire. Dans un blog posté sur le site de la conférence épiscopale américaine, la religieuse rappelle que le nombre de cas enregistrés dans l'Église américaine a fortement diminué ces dernières années grâce aux mesures sévères adoptées par les évêques et par le Saint-Siège pour protéger les enfants. Pour la seule année 2012, par exemple, les diocèses et les instituts religieux américains ont mené des enquêtes sur les précédents de 99% du clergé, sur 97% des éducateurs et sur 95% des employés et sur 96% des volontaires qui travaillent pour l'Église américaine. Sir Walsh partage également les perplexités du Saint-Siège quant aux critiques contenues dans les 16 pages du rapport contre les positions de l'Église sur la contraception, l'avortement et l'homosexualité. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur l'action du Saint-Siège envers les abus sexuels sur mineurs. Vous pouvez évidemment retrouver toutes nos interviews et nos informations sur le sujet sur notre site internet www.radiovaticana.va. Trafic d'êtres humains, un mal qu'a dénoncé l'évêque de Merlo Moreno en Argentine. Monseigneur Carlos Maletti a mis en garde ses fidèles après la disparition d'une jeune fille de 14 ans qui a finalement été retrouvée vivante et qui a pu retrouver sa famille. Un exemple, parmi tant d'autres, d'une attaque douloureuse et préoccupante envers l'intégrité personnelle, physique et spirituelle des enfants et des adolescents, a-t-il écrit dans une lettre envoyée à ses fidèles. L'évêque a rappelé notamment les paroles que le pape a prononcées le 12 décembre dernier, qualifiant la traite des personnes de crime contre l'humanité, qui appelle à une prise de responsabilité commune et une volonté politique plus forte pour vaincre ce fléau. Fléau qui existe en Argentine et dont les Argentins devraient avoir honte, selon Monseigneur Maletti. Restons en Argentine, où a eu lieu un incendie mercredi dans le quartier de Barracas, à Buenos Aires. Le pape a envoyé un télégramme de condoléances à l'archevêque de Buenos Aires pour transmettre sa proximité et ses prières aux victimes et à leurs familles. Il se dit profondément attristé par la mort de 9 personnes, dont 7 personnes dans la catastrophe. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est le thème du message du pape aux jeunes en préparation de la 29e journée mondiale de la jeunesse 2014 qui sera célébrée le 13 avril au niveau diocésain. Le pape continue donc le dialogue avec les jeunes du monde entamé à Rio l'été dernier et leur présente ainsi les thèmes des 3 prochaines éditions qui mèneront vers le grand rendez-vous de Cracovie en 2016. Ces thèmes sont extraits des béatitudes évangéliques et montrent combien le pape considère ce passage de l'évangile selon Matthieu comme un point fondamental de référence pour la vie des chrétiens, appelé à en faire un programme de vie concret. Olivier Bonnel.
Dans ce message, le pape rappelle aux jeunes que Jésus lui-même nous a montré la voie à parcourir en incarnant les béatitudes durant toute sa vie. Vivre les béatitudes aujourd'hui est pour les jeunes un véritable défi à suivre le Christ en allant à contre-courant et en témoignant de cette nouveauté révolutionnaire. François explique ensuite aux jeunes ce que signifie être pauvre de cœur. Entrons ainsi dans le vif du sujet de la prochaine journée mondiale de la jeunesse. Jésus lui-même, dit-il, a choisi la voie du dépouillement et de la pauvreté et le pape adresse aux jeunes une invitation pressante à l'imiter en leur montrant l'exemple de saint François d'Assise. Les jeunes chrétiens sont appelés à une conversion, à embrasser un style de vie évangélique marqué par la sobriété, la recherche de l'essentiel et la solidarité concrète envers les pauvres. Dans son message, le pape souligne aussi le lien étroit entre le thème de la JMJ de Rio, « Allez donc de toutes les nations faites des disciples » et la béatitude des pauvres de cœur. En effet, explique-t-il, la pauvreté évangélique est la condition fondamentale pour que le règne de Dieu s'étende. Des cœurs les plus simples jaillit souvent la joie authentique qui est le moteur même de l'évangélisation. Le Saint-Père rend enfin hommage à son prédécesseur Jean-Paul II, le grand patron des JMJ dont il a été l'initiateur et le leader, en rappelant le 30e anniversaire de la remise aux jeunes de la croix du jubilé de la rédemption qui aura lieu le 22 avril prochain.
Olivier Bonnel. Une réflexion sur le mystère de la mort au centre de l'homélie du pape ce jeudi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. François a demandé 3 grâces à Dieu. mourir dans l'Église, mourir dans l'espérance et mourir en laissant comme héritage un témoignage chrétien. Mourir à la maison, dans l'Église, c'est une grâce, ça ne s'achète pas, c'est un cadeau de Dieu et nous devons le demander, s'est exprimé le pape. Concernant l'héritage, il a expliqué que c'est notre témoignage de chrétien laissé aux autres et certains d'entre nous laissent une grande hérédité. Nous pensons aux saints qui ont vécu l'Évangile avec tant de force, qui nous laissent un chemin de vie et un mode de vie comme hérédité. Direction maintenant le Liban. Revenir aux fondamentaux du Liban, c'est-à-dire au pacte national entre musulmans et chrétiens, eh bien c'est l'appel lancé mercredi par l'église maronite. Les évêques ont publié un mémorandum pour aider le Liban à sortir de la crise politique. Conscients de la gravité de la situation, ils appellent toutes les composantes politiques à œuvrer pour la consolidation et l'édification d'un État fort, respecter le calendrier électoral qui prévoit notamment l'élection d'un nouveau président à la fin du mois de mai. Le cardinal Bécharraï, patriarche d'Antioche des Maronites.
Tous les Libanais sont responsables de la reconstruction du Liban parce que nous vivons une période très critique et que les deux grands courants politiques du Liban sont polarisés par les axes de conflits régionaux, et spécialement en Syrie. C'était un appel large qui dirige un peu la sortie et l'issue de la crise politique libanaise. D'ailleurs, l'accueil général de ce mémorandum de toutes les parties politiques libanaises, musulmanes et chrétiennes de tous les courants, ceci nous donne le grand espoir qu'on va avoir une nouvelle page de vie ensemble. Nous allons poursuivre avec des rencontres sur le plan national aux musulmans et chrétiens, des hommes politiques et des pensées. On va avoir des rencontres sur ce document encore. Ceci nous donne l'espoir de pouvoir avancer un peu.
Cet appel, ce retour aux fondamentaux, à la création du Liban en tant que pays, est-ce que c'est aussi rappeler le passé pour mieux affronter le présent et le futur ?
Nous avons insisté sur ce qui compose le Liban, les fondements essentiels. Et la création du Liban et surtout le pacte national de 1943, où musulmans et chrétiens libanais ont dit « nous voulons vivre ensemble » en égalité, dans un État qui n'est ni religieux à la manière arabe, c'est-à-dire théocratique, ni laïque à la manière occidentale, mais un pays qui sépare entre religion et État et respecte toutes les religions. C'est le pacte national. Et la traduction de ce pacte sur laquelle nous avons insisté, c'est la formule du pacte où la participation est organisée par la Constitution libanaise. La participation des chrétiens et des musulmans à l'égalité dans le pouvoir politique et administratif. Et ensuite, troisième point, le message que porte le Liban, d'après le fameux mot du bienheureux Jean-Paul II, que le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de convivialité islamo-chrétienne, message d'égalité entre musulmans et chrétiens, message de liberté et d'ouverture au monde. Nous avons dû rappeler les nécessités sur le plan national du Liban. Quelles sont les priorités à faire maintenant? Alors ce sont des choses internes. Et nous avons dit, c'est un programme, si vous voulez, pour le nouveau président de la République. Et pour pouvoir préparer cette grande festivité du premier centenaire de la création du Liban.
Le cardinal Bécharraï et le patriarche d'Antioche des Maronites, il était interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Une bonne œuvre enfin pour finir ce magazine. La Harley Davidson du pape François a été vendue aujourd'hui pour un peu plus de 240 000 euros lors d'une vente aux enchères à Paris. Estimation de départ entre 12 000 et 15 000 euros. Le pape l'avait reçu en juin dernier, un cadeau à l'occasion des 110 ans de la moto américaine. Il en avait fait don à la Caritas romaine. Cette vente permettra ainsi à l'association catholique de rénover un foyer d'accueil pour sans-abri dans la capitale italienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas donc notre site internet www.radiovaticana ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. Je vous donne rendez-vous demain. Même lieu, même heure.